Vous êtes sur RTL. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir Philippe.
Bonsoir Caroline.
Et bienvenue. Vous aimez pas là, ce qu'on vient de passer là, la chanson?
J'adore.
C'est chouette, hein, ça. Je sais pas, c'est un côté.
Je suis fan d'Elton John à la base, hein, aussi. Donc,
ah, bah oui, alors
bon,
évidemment.
Forcément.
Ah oui, mais alors ce duo, là, c'est vraiment chouette.
Ah oui.
C'est
oui,
léger.
Oui. C'est chouette. Ça faisait très. C'est sorti pendant l'été.
Ah, mais c'est pour ça. Mais je l'ai loupé, moi.
Ouais.
J'aurais
ouais.
adoré danser cet été là-dessus. Je passais à côté.
Ah oui, oui, oui. J'ai vu une vidéo sur Facebook où, en fait, il était dans une boîte de jour, là, enfin, à Cannes. Et puis il est arrivé comme ça par surprise. Il a
sur la plage.
Il a chanté.
Parce qu'il y a des boîtes l'été. Enfin, remarquez.
Bah, en fait, je sais pas.
On danse sur la plage.
Enfin, aussi sur la plage, en fait. Oui, c'est sur une plage.
Oh là là, ça fait rêver avec les températures là qui nous arrivent, là cette petite bise qui souffle. Je sais pas dans quelle région vous êtes, mais ça souffle.
Je suis en Bretagne. Moi.
Ah, il fait plus doux en Bretagne. Hein, vous avez une belle arrière-saison.
Cet après-midi, c'était jardin, terrasse, soleil.
Ah oui.
Oui, oui, oui.
Bon, oh, quelle chance.
La petite plaine, hein, bien sûr.
Oui, bien sûr, mais enfin, voilà. Je peux vous dire que c'était pas jardin et terrasse cet après-midi à Paris.
Ah, bah écoutez.
Bon, mais vous nous appelez pas pour parler de ça et je vois
non,
que l'heure tourne, alors
non.
Désolé, hein, c'est moi qui vous
appelle. Je vous appelle pour avoir vos conseils.
Oui.
Pour la faire courte, j'ai commencé une dépression en janvier. Avant le premier confinement, avant le Covid,
oui.
Du jour au lendemain, je me suis levé et je pouvais pas aller bosser. Enfin, c'était pas possible.
Du jour au lendemain.
Oui. Ouais, ça m'a pris un matin.
Oui.
Je sais pas, une prise de conscience. Mmh. Donc dépression, confinement 2 mois où j'ai été tout seul pendant 2 mois confiné. Oui. Une perte de 25 kilos.
Oh là là, vous n'aviez plus aucun appétit.
Je me souviens même plus. Franchement, je me souviens plus.
Vous n'êtes pas allé voir de médecin alors à ce moment-là.
Si, je voyais mon médecin fréquemment, puisque je suis sous traitement médicamenteux, voilà.
Antidépresseur, vous voulez dire?
Alors oui, alors bêta bloquant à titre cardiaque, et puis elle m'a mis sous antidépresseur.
Oui, bêta bloquant, c'est pas pour.
J'en ai testé 3.
Oui.
Le dernier, je devais augmenter la dose, et puis bah. Ça l'a pas fait parce que des diarrhées,
oui.
Plein d'effets indésirables, de la toux. Je n'osais même pas sortir parce que les gens me regardaient bizarrement.
Oui, hein. Bah, il fallait, ça ne vous convenait pas.
On était en plein début de Covid, donc la toux, ça alertait tout le monde.
Oui, la toux et la diarrhée d'ailleurs, il y avait aussi des symptômes. Bon.
En l'occurrence, et puis des reflux gastriques.
Oui.
Donc, ça a été comme ça jusqu'à ce que j'arrête. Et on m'a conseillé d'arrêter, progressivement, bien sûr. Je ne sais pas si vous connaissez, j'étais sous sertraline.
Non.
Et voilà, donc ça m'a fait, je pense, peut-être plus de mal que de bien. Un médecin qui n'était pas très attentif non plus, sans doute.
Ouais.
Et puis, bah, mes amis qui m'ont retrouvé le 11 mai à la sortie du confinement m'ont dit « Ah, j'avais les joues creusées, tout ça, ça n'allait pas. Hein. » Ouais. Bon, bref, cet épisode... En fait, m'a permis de prendre conscience, enfin, que j'étais sous l'emprise de ma mère, enfin, et de mes parents en général.
Oui.
J'ai pris conscience qu'à 41 ans, qu'il y avait un problème. Et là, j'ai remémoré plein de choses de ma vie, où il prenait peut-être trop position sur mes choix.
Oui.
Tout simplement, quand j'ai acheté mon appart, le choix des tapisseries, le choix des meubles, le choix du canapé.
Ah oui. Tous les deux, votre père et votre mère.
Ouais, alors beaucoup plus ma mère, plus ma mère qui a une emprise forte, qui est quelqu'un de malade, qui est fibromyalgique et qui malgré tout a une énergie.
Oui, c'est rare. La fibromyalgie, ça fatigue beaucoup. Oui, mais elle avait de l'énergie pour vous conseiller. Vous êtes
fils unique. Elle tente toujours.
Oui.
C'est de l'agressivité, c'est de la méchanceté.
Si vous lui dites non, si.
Ah mais je dis non. Je suis arrivée à un excès, je pense, Caroline. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ce que je fais?
Qu'est-ce que vous voulez dire par excès?
Bah, j'arrive, ou j'en arrive à lui dire, je sais pas si je peux dire ça à l'antenne, tu m'emmerdes, tu me fais chier.
Oui.
Aujourd'hui, je suis un,
oui. Bah,
un,
bon.
Un telle position de rejet
oui.
que d'entendre le son de sa voix, ça, je peux
ah
plus.
Ah oui, vous pouvez plus, d'accord. Oui. Comment je elle réagit, votre mère?
Pardon?
Comment réagit-elle?
Alors là, depuis quelque temps où j'ai dit stop, elle ne m'appelle plus.
D'accord.
Par contre, elle essaie de savoir par ma sœur ce qui se passe.
Mm-hmm.
Et voilà, et ma sœur, j'ai l'impression, est dans cette même optique, mais elle a la distance kilométrique.
Dans quelle optique? La vôtre ou celle de votre mère?
Bah, en fait, j'arrête pas d'essayer de lui faire comprendre qu'elle se fait bouffer la vie.
Ah oui, elle aussi.
Bah oui, je lui dis, t'as ton fils, t'as tes petits-enfants,
oui.
Voilà, tu, c'est toi, ta vie, c'est ça, c'est pas les parents.
Nous, oui.
Là, tu regardes la génération qui vient, pas la génération qui va partir indéniablement à un moment donné. Et voilà, et je sais pas comment faire, Caroline. J'ai envie de couper, j'ai envie de tout couper et dire stop, je veux plus te parler, on arrête là.
Oui.
Mais il y a quand même ce truc, c'est ma mère.
Oui, c'est compliqué. Oui, je comprends.
Voilà.
Oui. Mais pour le moment, vous êtes dans une phase comme ça, où vous avez besoin de la tenir à distance, finalement.
Ah oui.
Ça arrive,
ah oui, parce
ça.
Que sinon,
on peut éprouver
sinon,
ce besoin-là.
Oui. C'est des angoisses, c'est la nuit.
Oui.
Je ne sais combien de fois, à partir de chez mes parents, j'étais en voiture, je pleurais, quoi. Je partais, je pleurais, parce que j'étais oppressée, enfin, j'étais...
Vous les voyez beaucoup ou...
Bah, ils habitent pas loin, ils habitent à une quinzaine de kilomètres.
Oui. Donc, au fond, oui, vous les voyez assez souvent.
Non, elle, non. Mais... Je peux plus, Caroline.
Oui, bah, oui
je comprends.
Et j'ai été
suivie par une psychologue, j'ai vu une psychologue pendant plus d'un an. Et puis, comme je dis, dans mon entourage, j'ai plaqué ma psy, quoi.
Pourquoi?
Parce que... elle a eu des paroles qui m'ont blessé.
Ah oui, qu'est-ce qui vous a blessé si... Enfin, bah, c'était en référence à votre mère ou à autre chose?
Bah non, justement, non. Bah, par rapport à ça. La dernière fois que je l'ai vue, j'ai pas vu le rapport. Elle m'a demandé si ça faisait longtemps que j'avais pas eu de rapport sexuel.
Oui, c'était trop direct en fait.
J'ai pas compris.
C'était sorti un peu comme ça, hors contexte, vous voulez dire?
Bah, un peu.
Ah oui, enfin, ça a été intrusif pour vous.
Bah, je veux dire, j'ai pas de tabou.
Vous ne veniez pas là pour cela. Vous veniez plus pour parler
du moins,
de.
Pas cette fois-ci, parce que ma sexualité, je l'ai aussi dévoilée il y a un an et demi, deux ans. Voilà, j'avais un garçon dans ma vie.
Oui.
Pas à côté, malheureusement et peut-être heureusement, finalement, à l'autre bout de la France.
Oui.
À la frontière suisse.
Oui.
Et du coup, voilà, on a vécu une histoire longue distance. Et puis c'est le premier garçon avec qui, voilà, je suis avec lui. C'est comme ça. Et je n'ai pas cette acceptation.
Vous êtes amoureux.
Parental.
C'est-à-dire quand vous voulez.
Ah bah c'est clair et net que si demain j'ai quelqu'un dans ma vie, il est hors de question que cette personne-là franchisse le pas de la porte.
Ah bon? Mais vos parents vous l'ont dit comme cela? C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas, au fond,
que vous puissiez aimer
un homme.
Que je sois gay, quoi, ouais.
Oui,
ouais.
C'est ça. Mais oui, c'est pas étonnant que vous vous sentiez rejeté.
Ah bah, voilà. En plus, on va dire que, coming out, ma grande sœur s'est occupée pour moi de le faire, en fait. Elle l'a fait pour moi.
Bon, mais vous lui aviez demandé?
Non.
Pourquoi l'a-t-elle fait, selon vous?
Enfin, parce que... Je ne sais pas. Je n'y en tiens pas rigueur. Voilà.
Oui, mais c'est quand même...
Oui, ce n'était pas elle de le faire.
Ce n'était pas elle de le faire, parce que ça peut être violent et ça pouvait nuire à vos relations sans que vous le souhaitiez, avec vos parents, d'ailleurs. Bon. Enfin, ça relève de votre vie intime. Alors, dans quelle intention l'a-t-elle fait?
Est-ce que c'était... Je ne sais pas. Il n'y a pas cette acceptation.
Parce qu'elle voyait que vous aviez du mal à le dire, ou... Enfin, bon, oui.
Mais bon, voilà... ça n'empêche que voilà, il y a cette emprise.
Oui, donc vos parents finalement, comme n'acceptant pas votre homosexualité, vous êtes à 15 km de chez eux, donc ça veut dire que vous pouviez avoir une vie à vous, mais vous n'en parliez pas. Donc au fond, ils vous voient, c'est d'autant plus facile pour eux de vous voir encore comme un enfant finalement.
C'est peut-être.
Vous voyez, non, mais comme un enfant qui ne vivant pas en couple, n'ayant pas d'enfants, ne présentant personne. Vous voyez, pour des parents, c'est comme si ben, vous restez de fait leur enfant, et ça jusqu'à la fin de leur jour. Mais d'autant plus que, contrairement à votre sœur, qui est en couple, qui a des enfants, parfois là, les parents voient qu'il y a un changement. Alors que vous, c'est, vous restez le petit, Philippe.
Bah oui, ma sœur, on a 12 ans d'écart. Elle a... Elle a 55 ans, ma sœur.
Oui,
elle est maman, elle est grand-mère.
Ça. Oui.
Elle est grand-mère.
J'ai entendu. Donc, oui, elle est, c'est une jeune grand-mère.
Mes parents sont arrière-grands-parents.
Voilà. Mais vous, vous restez toujours le petit, Philippe.
Bah, je sais pas. Enfin, moi, j'ai vachement de mal parce que je pense que le plus mature dans l'histoire.
Non, mais vous avez raison de ne plus vouloir l'être et de vous pouvez grandir. Enfin, vous avez montré que vous avez grandi.
Quoi, d'une certaine manière.
En tout cas, pour le moment, vous êtes dans une phase où vous êtes en colère et en rejet. Voilà, en
rejet. Je ne sais pas ce que je dois faire, Caroline. Est-ce que je dois continuer dans ma lancée ? Est-ce que je dois calmer le jeu et... Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de calmer le jeu aujourd'hui.
Chaque chose, voilà, chaque chose en son temps. Rien n'est définitif, Philippe. Pour le moment... il faut partir de ce que vous ressentez. Pour le moment, et cette dépression, me dites-vous, a été au fond un révélateur. C'est souvent le cas.
J'ai failli replonger avant l'été. J'étais à deux doigts. J'ai changé de médecin traitant. On m'a conseillé quelqu'un. Et là, ça a été un bouleversement dans ma vie parce qu'elle a pris les choses en main. Elle m'a remis sous antidépresseur, ce qui m'a permis de m'aider parce que j'ai pas eu d'effet indésirable ni quoi que ce soit.
Oui, oui.
On est dans une phase où on va arrêter.
À nouveau.
Elle m'a dit que c'est trop tôt. Pour l'instant, c'est trop tôt.
Bah c'est ça, oui. C'est un peu comme la thérapie. Alors, je comprends l'idée qu'il y ait quelque chose qui ne vous ait pas plu et que vous, à un moment, vous êtes ça rompu. Vous la voyez depuis longtemps, la thérapie ?
Ah non, mais là, je vous parle du
médecin
traitant.
Oui, oui, j'ai compris pour les médicaments.
Je ne la vois plus, non.
Bon, mais je trouve que l'idée de la démarche est intéressante.
D'accord.
Parce que... par rapport à la dépression que vous avez fait, qui souvent, évidemment, on peut le souhaiter à personne parce que c'est très
impressionnant.
Oui, c'est très pénible. Oui. Mais il y a quelque chose au fond. Ça peut être aussi une façon de enfin réparer quelque chose qui en nous était en souffrance. Qui était là de façon un peu chronique, enfin un peu à l'état latent, ou qui se réveille finalement un jour comme ça, à la faveur d'un événement, d'une parole, de quelque chose qui se passe.
Ah oui, c'est ça. Et je ne sais pas pourquoi, au mois de juin, j'ai même eu des idées noires, j'avoue. Bon, je me suis ressaisi tout de suite. J'ai essayé de faire plein de choses. La sophro, ça n'a pas marché. La méditation, c'est ce qui a finalement... C'est ce qui, pour moi, fonctionne le mieux, la méditation. Mais il y a une question de voix aussi dans la méditation. Il faut que j'accroche bien avec la voix de la personne qui fait la séance de méditation.
Oui, mais ça vous aide aussi.
Ça aide. L'hypnose aussi, j'avais trouvé quelqu'un en Haute-Savoie qui était extraordinaire, qui m'a beaucoup aidé aussi.
Bon. Alors, on voit que vous cherchez quelque chose pour vous apaiser. Je pense, alors pourquoi pas, si l'hypnose vous a fait du bien, mais par rapport à votre question sur la relation avec vos parents, où pour le moment vous êtes dans le rejet, et particulièrement de votre mère. Il arrive, et ça n'arrive jamais par hasard, ce genre de situation.
Non, c'est un trop-plein.
C'est un trop-plein, c'est quelque chose qui émerge et finalement qui est un besoin aussi, qui correspond à un besoin de vous protéger. Puisque vous me dites que quand vous partiez de chez vos parents, souvent vous étiez en pleurs, vous étiez extrêmement angoissé, très mal.
Ça, ils ne le voyaient pas. Ça, ils ne le voyaient pas. Jamais on m'a demandé comment j'allais quand j'étais en confinement tout seul 2 mois. Jamais on m'a appelé pour me dire comment tu vas, comment ça se passe. Jamais. Jamais. Et c'est ça que je leur reproche.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une grande intrusion dans les choix, dans les décisions concernant votre vie, et en même temps, ce que vous vivez comme un manque d'attention. Alors, je vais faire un peu vite parce que je vois qu'il est minuit 24. Pour vous dire dans les grandes lignes, bien sûr qu'on peut décider à un moment de s'éloigner d'un parent ou de ses parents si on se sent en souffrance dans cette relation-là. Mais ce qui est important, c'est de travailler sur le lien. Enfin, déjà, quand on est en dépression, quand même, comme vous l'avez fait, même si ça demande un peu à être consolidé, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une brèche dans la personnalité dont il peut devenir quelque chose. Mais pour cela, il est important d'avoir un traitement approprié, évidemment, qui déclenche pas des effets secondaires pires que le mal. Et de le continuer pendant un certain temps. Parce que souvent, le risque, c'est que les antidépresseurs, ça marche bien. Et que dès que les personnes vont mieux, elles arrêtent. Ce qui est humain. Quand on va mieux, on arrête. Mais il vaut mieux un peu stabiliser les choses. Et puis, quand même, parallèlement à cela, parler. Avoir un lieu d'une psychothérapie de soutien.
Ah, quand même, vous pensez qu'il faut que je trouve quelqu'un d'autre ?
Moi, il me semble.
J'ai pas envie de retourner chez.
Bien sûr, je vous dis pas de retourner chez cette personne qui, à un moment, ses propos ne vous ont pas plu. Mais de trouver quelqu'un. Parce que la méditation peut vous aider, justement. On sait que, par rapport à la dépression, ça peut vous permettre, justement, de vous plonger dans quelque chose. Enfin, ça peut vous faire du bien. Mais je trouve que vous avez beaucoup à dire sur cette relation-là. Et ça peut vous aider à trouver la bonne distance. C'est-à-dire qu'à un moment, rien n'est jamais figé ou définitif en thérapie. On avance par phase et en fonction de ce que vous ressentez. Pour le moment, vous en êtes là. Vous ressentez le besoin pour vous protéger. Et vous avez le droit de le faire, bien sûr. Avez le droit de le faire.
C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que vous êtes du métier. Et que le psychiatre, c'est pas, je pense pas que ce soit la réponse à mes questions. Le psychologue,
si vous voulez, alors le psychiatre, en fait, il vous prescrit un traitement, mais il y a des psychiatres qui font aussi des psychothérapies. Vous voyez, tout dépend. C'est-à-dire que le psychiatre, il est médecin, donc il peut prescrire des médicaments, mais il y a aussi des psychiatres qui font des thérapies d'accompagnement.
Voilà. Oui, oui.
Donc, vous pouvez très bien voir, enfin, que ce soit psychiatre ou psychologue, mais avec une démarche d'accompagnement pour justement un peu travailler sur ce lien-là. Parce que, Brigitte, dès vos premiers mots, elle dit « Vous avez eu bien du courage de dire stop comme ça ». Elle dit « Pas trop de culpabilité ». Et oui, c'est ça le risque.
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas, tant mieux. Mais si vous voulez à long terme, parfois, c'est ce qui peut émerger. Et si vous voulez, dans une thérapie, on ne reste jamais sur quelque chose qui est du rejet. Parce que tout ça, ça se travaille. C'est ça, c'est une étape. Vous passez d'une phase où vous n'aviez pas conscience du lien extrêmement fort que vous aviez encore à vos parents, qui vous empêchait peut-être un peu d'advenir, de vous construire. Là, vous en prenez conscience, c'est violent, cette prise de conscience. Du coup, vous dites « rejet ». C'est une étape. Mais, je veux dire, il est possible de mettre une distance psychique, voyez, sans pour autant... Le rejet, parfois, sur le long terme, c'est pas simple de tenir. Parce que ça
On va au regret, après.
Ça peut encombrer la tête. Parfois, être dans une situation de rupture, ça prend beaucoup d'énergie, plus que de maintenir une relation, mais avec une certaine distance où on se protège.
Oui, je suis dans cette phase-là aujourd'hui.
Voilà. Donc, c'est.
Mais je vais retourner voir quelqu'un, effectivement. Bah, écoutez, oui. J'y avais pas pensé.
Oui, je pense qu'en plus, parallèlement, vous savez, parce que cette dépression a été une alerte de quelque chose. Oui. Et vous allez voir qu'au final, la meilleure façon de s'en sortir, c'est vraiment le traitement, plus une psychothérapie de soutien. Encore Brigitte, que votre témoignage inspire, qui dit une psychothérapie peut se permettre de parler de votre situation et progressivement de gagner plus de liberté intérieure par rapport à vos parents, de souffrir moins. Et par rapport à ce que vous dites, parce que vous l'expliquez, c'est très clair comme, en quoi la dépression a été un révélateur de quelque chose. Ah oui. Il y a Moussa Nabati qui a fait un livre à ce sujet, au titre un peu qui peut paraître provocateur, mais la dépression, une maladie ou une chance? Alors évidemment, ça reste une maladie et on s'en passerait bien, mais ça peut être une chance d'une ouverture psychique, d'un travail sur soi finalement, de travailler des choses qui ont été douloureuses pour nous. Donc peut-être un livre aussi qui peut vous aider. Moussa Nabati, N-A-B-A-T-I, la dépression, une maladie ou une chance. Je vous embrasse. Bon travail alors, Philippe.
Bonne soirée.
Prenez soin de vous.
Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.